France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des solitudes urbaines ce samedi dans Plan Large avec Laura Carreira et Simone Messa-Soto et aussi Sophie-Catherine Gallet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Du Taxi Driver de Martin Scorsese à la pianiste de Michel Haneke, en passant par la grande Jeanne Dielman de Chantal Akerman et tant d'autres, le cinéma regorge de grandes figures de la solitude parmi les foules urbaines. Depuis que le néolibéralisme virtuel et triomphant a encore un peu plus atomisé les individus et enfermé chacun dans une bulle solipsiste que les réseaux dits sociaux paradoxalement accentuent encore, ces personnes sont devenus l'incarnation même de ce que nous expérimentons chaque jour un peu plus. En témoignent deux beaux et tristes spécimens qui depuis mercredi hantent nos grands écrans. La première est une piqueur, une préparatrice de commandes dans un de ces entrepôts du commerce en ligne qui colonise peu à peu nos zones périurbaines et machinise à coups d'algorithmes tayloristes les travailleurs et travailleuses précaires qui sont les rouages invisibles des économies dématérialisées. La Portugaise installée en Écosse, Laura Carreira, digne émule de la précité Chantal Akerman et de l'anglais Ken Loach, la filme dans son quotidien au bord du gouffre et de la chute. C'est son premier long métrage, ça s'appelle On Falling et nous sommes ravis de la recevoir aujourd'hui pour en parler avec elle. Le second est tout aussi précaire et solitaire, c'est un poète, comme le dit le titre du film qu'il traverse, un personnage impossible à défendre, irrécupérable et pathétique, dont le Colombien Simone Messa-Soto arrive pourtant à faire surgir la noblesse. Nous l'entendrons tout à l'heure. En fin d'émission, c'est encore la rencontre momentanée de deux profondes solitudes qu'évoquera Sophie-Catherine Gallet à l'occasion de la réédition en salle d'une journée particulière d'Ettore Scola. Mais pour l'heure, dans le rare espace de rencontre qu'est la cuisine d'un appartement en colocation, c'est le moment de se présenter et de se dire d'où l'on vient.
Where are you from?
I'm from Poland.
Nice.
And you?
I'm from Portugal.
Oh, nice. I've never been to Portugal.
I've never been to Poland too, but I heard it's good.
Yeah, it's okay.
Tired?
No, I'm just stretching a bit, like plenty of work and the move and everything, so it's a lot.
Yeah. What you do?
I am the man with a van.
Okay.
Yeah, it's not my favorite thing, to be honest. The money is all right.
At least that.
Yeah. You, what do you do?
I'm a woman with I work in a warehouse as a picker.
Oh hey. In the industrial park?
Yeah.
Oh, I know someone who does that, maybe. Maybe you know him. David, short guy.
There's quite a few of us.
Yeah. No stupid question, of course.
No, it's not stupid.
Do you want some? They're very good.
Yeah, sure. Thanks.
Bonjour, Laura Carreira.
Hello, thank you for having me.
Eh ben avec plaisir. On est donc, comme je l'ai dit, dans la cuisine d'un appartement en colocation où vivre, c'est déjà un grand mot, des travailleurs, des travailleuses immigrées. Lui, il vient de Pologne, il s'appelle Chris, c'est l'homme avec le van, c'est donc un livreur. Elle s'appelle Aurora, elle est portugaise, elle ne trouve pas les mots pour le dire, mais c'est la femme avec le bip. On pourrait dire, ce beeper qui lui sert à identifier les commandes qu'elle doit ramasser sur les étagères d'un vaste entrepôt de vente en ligne type Amazon, pour ne pas la citer, soit deux rouages cachés et pourtant essentiels de l'économie numérique. On précise, même si on voit peu la ville, qu'on est à Édimbourg en Écosse, la ville où vous êtes installé depuis de nombreuses années déjà, puisque vous y avez fait vos études de cinéma. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans le personnage d'Aurora, Laura Carreira?
Yeah, I think obviously I'm Portuguese. I lived in Scotland now for 13 years.
Alors, je suis portugaise, ça fait 13 ans maintenant que je vis en Écosse. Et ces premières années en Écosse, lorsque j'ai étudié le cinéma, c'est le moment où j'ai aussi commencé à travailler. Et je pense que le choc de la collision de ces deux choses m'ont donné une vision de la vie qui n'était pas forcément celle que j'imaginais dans le monde du travail. Et évidemment, après, quand je suis rentrée dans le cinéma, j'ai commencé à voir ma vie de manière très différemment. Hein. Et donc, évidemment, beaucoup de gens avec lesquels je travaillais, avec lesquels je vivais, étaient aussi des immigrants. Et donc, c'était quelque part une solution pour le pays. Il y avait beaucoup de Polonais, beaucoup d'Espagnols. C'était un peu comme si on formait une communauté alors qu'on était en même temps extrêmement occupé par nos travaux respectifs. Et c'était une communauté très fragile, donc.
Par curiosité, qu'est-ce qui amène une jeune Portugaise à aller à Édimbourg pour apprendre le cinéma? Le Portugal est un grand pays de cinéma. Déjà, qu'est-ce qui vous a attiré en Écosse, Laura Carreira?
I moved in 2012.
Je me suis installée en Écosse en 2012, le moment d'une crise financière au Portugal, et j'avais vraiment le sentiment qu'au Portugal, ça allait être très difficile là-bas de faire une carrière de cinéaste. Le Premier ministre nous disait alors que ma génération devait quitter le pays, donc je ne pense pas avoir été à l'époque la seule à penser alors qu'il y avait des opportunités extrêmement limitées dans mon propre pays. Donc la noix avait changé, c'était un peu, il n'y avait pas le Brexit déjà, donc à l'époque je me suis sentie bienvenue quelque part.
Alors ce qu'on entend déjà dans cet extrait, ce qu'on ressent beaucoup dans votre film, c'est ce goût de l'accent, des accents dans la façon de parler. Est-ce que c'était pour vous, d'abord parce que vous avez ce plaisir-là, d'entendre comme nous des façons différentes de parler, ou est-ce que c'est aussi tout simplement pour montrer qu'est-ce que c'est qu'une classe ouvrière aujourd'hui, ou que soit dans quel pays que ce soit d'ailleurs, les origines sont toujours très mélangées, il faut trouver une langue commune pour se parler, mais qui marque toujours les origines, Laura Carreira.
Yes, I definitely wanted to include accents because I felt it was representative of.
Je voulais bien sûr inclure des accents parce que je trouvais que c'était très représentatif du pays où je vivais et je pensais qu'on avait besoin d'avoir cette représentation. Et au moment où j'ai fait des recherches pour les films, j'ai découvert ces beepers qui travaillaient dans les entrepôts et donc je voulais aussi qu'ils soient présents dans le film et particulièrement avec, je dirais, elles sont qu'on entend dans tous les discours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qui sont anti-immigration. Et je voulais que ça soit montré dans le cinéma parce que ça l'est très peu. Et donc, effectivement, je voulais montrer que l'anglais était cette langue commune, mais que je voulais montrer aussi comment c'était beaucoup plus difficile pour mon héroïne de communiquer parce que ce n'était pas sa langue maternelle. Et donc, c'était aussi quelque part qui augmentait les efforts pour se rapprocher de l'autre, ce qui veut dire une communication limitée. Et donc, évidemment, les gens essayent de se connecter, mais ils ne trouvent pas les mots toujours pour le faire.
Ce que vous montrez très bien, effectivement, c'est tous les obstacles qu'il y a à cette communication. Alors, il y a ce moment dans cette cuisine où on peut se parler, mais il y a la fatigue. Il y a au travail le temps qui est toujours très limité. Même discuter avec un collègue devient périlleux parce qu'on risque de perdre la cadence. Et puis, il y a les téléphones portables. Et ça, j'ai eu le sentiment que vous étiez la première, enfin, à filmer ce qu'implique cette façon de se réfugier dans son téléphone portable, que ce soit chez soi, que ce soit à la pause, de faire du scrolling en permanence sur des images qui ne vous apportent rien et qui vous coupent de toute communication. Comment est-ce que vous avez pensé la manière dont vous alliez filmer ces téléphones portables, Laura Carreira?
Une fois de plus, je voulais vraiment que ça ait l'air vrai, tout ça, ma manière de montrer aujourd'hui et comment on est ensemble. Et je crois que le téléphone, aujourd'hui, représente quelque part tous les désirs profonds que l'on a, tous les désirs profonds du personnage, c'est-à-dire, le fait que dans sa vie sociale, elle ne peut pas faire des liens qui ont du sens. Et c'est aussi quelque chose, quelque part, où on peut consommer littéralement facilement. Quand j'ai parlé avec des gens qui me racontaient à quel point ils étaient fatigués, ils me parlaient du rapport avec leur téléphone, parce que on a à voir avec des communautés qui sont très fatiguées, et donc d'une certaine manière, le seul lien devient le téléphone qui représente tous ces désirs non aboutis. Et évidemment, ça rend la conversation des uns avec les autres encore plus difficile. Et je crois que même, en fait, on voit bien que le salon, par exemple, dans cet habitat partagé, a été supprimé pour faire place à une autre chambre. Et donc, je pense qu'effectivement, cette manière de supprimer les espaces collectifs est quelque chose qui a beaucoup à voir avec notre monde d'aujourd'hui.
Mais la consommation, c'est aussi évidemment tous ces objets que doit manipuler votre héroïne dans cet entrepôt. Elle ramasse sans cesse des choses les plus absurdes parfois, enfin les plus pratiques. Ça va de petits carnets, de poupées, des godemichés, une corde. Comment est-ce que vous avez pensé tous ces objets justement qui sont là et qui donnent à voir ce qu'on consomme aujourd'hui, ce qu'on achète en ligne, Laura Carrera?
Alors ça, ça vient des recherches que j'ai faites, en fait. Ces objets, en fait, c'est ce que tous ces piqueurs m'avaient dit. Je ne savais pas comment les gens allaient remarquer, en fait, mais c'est lorsque les gens ont commencé à parler de leur solitude que j'ai vu la connexion, avec les différents objets que les gens souhaitent acquérir. Et donc, c'était une manière de montrer aussi la vie des autres. Il y a des objets, en fait, qui pour elles ont un sens. Il y a cette corde aussi. Mais je crois que voilà, ça montre, c'est une manière de montrer, en fait, la vie des personnes qui ne sont pas dans cet entrepôt, ce qu'ils souhaitent acquérir, ce qu'ils achètent. Et les consommateurs sont, en fait, des travailleurs aussi. Et donc, les gens travaillent de manière alternée aussi.
This interview is really just to get to know you a bit, okay? So, if you could tell me a little bit about yourself, things that you enjoy doing, that sort of thing.
I just do the usual, I guess. I'm sorry, I can't think of anything.
Oh, that's all right. Now, you're doing great, all right? When you're not at work, what sort of things do you like to do?
I do the laundry. I'm sorry, this is stupid. I hang out with my friends. I do karaoke, go to the cinema, and I like to travel.
Okay, so have you been somewhere nice recently?
Yes, the Bahamas.
Oh, wow, that's amazing.
Yeah, it was lovely.
C'est une des scènes les plus bouleversantes de votre film, Laura Carrera. C'est un entretien d'embauche pour devenir aide à domicile que passe Aurora. Et ce sont des silences qui en disent long quand son interlocutrice lui demande, vraiment en question bateau, à laquelle elle ne sait pas répondre, ce qu'elle aime faire en dehors de son travail. Et c'est un moment de vertige parce que c'est le moment où Aurora découvre à quel point sa vie est vide. C'est un véritable effondrement existentiel qu'assiste le spectateur. Comment est-ce qu'on met en scène une telle séquence, Laura Carreira ? Les silences sont très importants, évidemment.
Oui, c'est une bonne question, en fait. Ma comédienne, Johanna Santos et moi, avons beaucoup parlé, en fait, puisque, bien sûr, tout allait amener à ce moment-là, tout ce qui se passait dans le film. Et pendant tout le film, en fait, il y a des tas de choses qui sont dans le non-dit, dans ce que Aurora ne peut pas exprimer. Et dans ce moment, en fait, que vous mentionnez, les questions lui sont adressées directement. Et c'est des questions auxquelles, effectivement, le film ne peut pas répondre parce qu'elle n'a que des conversations totalement anodines. Elle ne peut jamais rentrer en profondeur. Et ça, quelque part, cette scène-là, quand on lui pose directement la question, ça renvoie à qui elle est de manière profonde. Et quelque part, elle a perdu le sens de qui elle est. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est venu de mes recherches et des conversations que j'ai eues avec les gens pour préparer le film. Les gens, en raison de la fatigue, en fait, qui est très importante, fatigue à la fois psychologique et mentale, n'arrivent plus, en fait, à sortir de l'environnement du travail. Et avec Johanna, on s'est dit qu'il fallait laisser, en fait, ces moments de silence, ces moments vides, pour que le public même puisse réfléchir à sa propre vie et que, d'une certaine manière, les spectateurs puissent eux-mêmes répondre à cette question-là qui est posée à Aurora.
Alors, je vous ai présenté tout à l'heure en introduction comme une émule à la fois de la Chantal Akerman, de Jeanne Dielman et à Ken Loach, qui est d'ailleurs un des producteurs de votre film. Est-ce que vous vous situez précisément à l'intersection de ces deux cinémas assez différents, mais qui prennent le temps de regarder leur personnage, Laura Carreira ?
Yeah, absolutely. I mean, Ken Loach's films
tout
were
à fait, en fait. Ken Loach a été une influence pour moi dès le début de mon travail dans son cinéma. Je retrouvais, en fait, des portraits de personnes avec lesquelles je pouvais me sentir en lien, puisque c'était des gens qui parlaient de problèmes financiers, en fait. Et effectivement, on ne s'interroge pas, en fait, sur cette question du travail. Et puis, Chantal Akerman, elle a une manière absolument incroyable de filmer effectivement la solitude, en fait, parce que le personnage ne dit pas, en fait, ce qu'il traverse. Et donc, voilà, je trouvais que mon personnage, Aurora, était aussi un personnage qui avait beaucoup de liens avec les personnages qu'on retrouve chez ces cinéastes, en fait. Et donc, avec ma comédienne, c'était important, en fait, au niveau sensoriel, d'essayer de faire penser à ces films. Et puis, évidemment, Jeanne Dielman, c'est aussi une référence visuelle pour le film, quand on voit notamment Aurora dans la cuisine, le choix qu'on a fait des angles de caméra. On avait pratiquement le sentiment que la caméra elle-même avait une routine comme le personnage principal. Et aussi une manière de traiter, en fait, le temps, l'ennui du temps, la répétition, en fait, des vies. Ne pas sauter ça, pour que les gens, les spectateurs, ressentent ces temps-là très fort.
Mais avec aussi quelque chose de très portugais, il me semble, dans ce personnage et la manière dont Johanna Santos l'incarne, qui a une grande tristesse, mais qui a toujours quelque part un petit sourire, quelque chose qui fait que son visage reste une source de lumière dans votre film, Laura Carreira.
Yes, it was important for me, obviously for Aurora.
Oui, c'était important pour moi en fait. Hein, souvent pour Aurora, le sourire vient comme un mécanisme de défense en fait, puisqu'elle a appris à ne pas montrer ce qu'elle ressent. Hein, et beaucoup d'entre nous font ça, je crois. Et pour ce qui est de sa solitude et de comment elle l'exprime, elle a une vision sur sa vie, oui, mais en même temps, il était très important de montrer que elle avait toujours son humanité, hein, parce que effectivement, voilà, on est dressés les uns contre les autres comme si on était toujours en compétition. Mais je crois que finalement, en fait, il y a beaucoup de choses en fait qui sont d'expressions qui sont étouffées par notre système actuel et des choses qui montrent que on peut pas être aussi, on n'est pas aussi heureux qu'on pourrait l'être, hein. Et quelque part, les problèmes qui sont ceux de Roy ne sont pas des problèmes qui viennent d'elle directement, hein. Et on voit bien à la fin du film quand le système se grippe, c'est-à-dire quand il y a une grande panne, dans cet entrepôt. On va assister en fait à une scène où les gens quelque part partagent vraiment quelque chose, ce qui est possible quand on a le temps.
Il est important de jouer ensemble. Merci Laura Carreira. Unfolding, c'est sur vos écrans depuis ce mercredi. Vous pourrez rencontrer la cinéaste ce soir à 20h au Luminor à Paris et demain à 14h à l'Apollo de Ponto Combo. Merci aussi à Pascal Fougère d'avoir traduit vos propos. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, c'est encore une triste figure de la solitude urbaine qui va nous occuper à présent. C'est Un poète, c'est le titre du film. C'est aussi comme ça que se vit et revendique son anti-héros Oscar, qui eut son heure de gloire il y a quelques décennies, mais qui est dorénavant considéré comme un raté par tout le monde, de ses pairs du club de poésie de sa ville de Medellín, à son ex-femme et sa fille adolescente qui voudraient bien qu'il disparaisse une fois pour toutes de leur vie, en passant par sa famille bourgeoise, effondrée de ce personnage qui joue au Bukowski tout en vivant au crochet de sa mère âgée. Jusqu'au jour où, daignant sur pression de la dite famille, dispensé dans un lycée des cours de philosophie, il tombe sur une jeune femme, une certaine Yurlady, une adolescente qui est une poétesse née malgré son apparente superficialité et son extraction populaire et qu'il va pousser à candidater à un concours de poésie. Rompant avec l'esthétique plus convenue de ses films précédents, Lady, qui avait eu la Palme d'Or du court-métrage au Festival de Cannes en 2014, et Amparo, son premier long-métrage, vu lui à la Semaine de la Critique, toujours à Cannes en 2021, le Colombien Simon Mesa Soto signe avec Un poète, un film quasiment punk, où la pellicule 16 mm avec poussière apparente, les plans délibérément peu composés où abondent les recadrages par brusques mouvements de caméra et zoom impromptus, et le montage aussi dans le plan par des jump cuts et des scènes coupées abruptement. Le tout entre en résonance avec la personnalité volontairement mal aimable de son personnage, au corps malingre et au visage ingrat, alcoolique, éructant, pathétique et presque impossible à défendre, dont le cinéaste parvient pourtant à faire émerger l'inattendue noblesse. Un tour de force cinématographique tout à la fois éthique et politique. Nous avons rencontré Simone Mesa Soto lors de son passage à Paris.
Sufrimiento, la penumbra. ¿Qué se podría decir de penumbra? ¿No sería acaso el crepúsculo del ocaso tardío a la alborada resplandeciente del día solar? Agujeros negros donde todo se olvida. en su voracidad de fauces pantanosas, planetas sojuzgados por el frío, esparciles silentes con lunas clausuradas. ¿Tienen alguna pregunta? ¡Y la poesía! ¡La poesía! ¡La poesía es! ¿Conocen poemas?
Bonjour, Simone Messasotto.
Bonjour.
Qu'est-ce qui, selon vous, rapproche le cinéma de la poésie?
Bueno, me interesaba la
Moi,
poésie
ce qui m'intéresse, c'est surtout la poésie dans sa forme transversale. Qui englobe tout, l'art qui englobe tout.
La figura del poeta era
la figure du poète peut être un prétexte
para retratar un ser
pour parler d'une forme d'être songeur, idéaliste.
Y me interesaba el universo de los poetas.
Ce qui m'intéressait, c'était l'univers des poètes.
Como una especie de documental
de, une forme de documentaire de,
sobre los poetas,
sur les poètes
promedio de Medellín,
un peu moyen de Medellín, de ma ville.
Y cómo a través de ellos,
et comment, à travers ces figures-là,
yo me veo reflejado,
moi, je peux m'y refléter et m'y retrouver
como artista.
En tant qu'artiste.
Entonces, intentaba tanto reflejar
je n'essayais pas tant d'idéaliser la poésie,
sino
mais surtout
la
de
mi trabajo,
refléter la poésie dans mon travail et dans mon travail d'artiste.
La beauté de la poésie, c'est qu'il suffit d'un crayon et d'un bout de papier. Et puis, ça suffit à créer. On sent qu'avec ce film, vous êtes à la recherche d'une sorte de forme de création pure qui serait totalement déconnectée de l'argent, sauf que vous montrez que même pour la poésie, eh bien, il est difficile de se déconnecter totalement des questions d'argent.
Sí, claro.
Oui, bien sûr.
Llevas tanto tiempo
quand on passe
en el
tant d'années dans ce métier-là, on prend le risque
de s'intégrer,
d'entrer dans un système
que termina siendo el sistema al cual criticas.
Qui finit par être le système qu'on va critiquer.
Y el arte es muy bello, es una
L'art bello, est magnifique, c'est une profession, un métier, un lieu magnifique, mais ça, il y a aussi un aspect mercantile et de superficialité.
Entonces, buscaba también.
Donc moi, je cherchais
à
revenir à ce jeune qui a commencé le cinéma avec toutes ses envies de liberté, avec tous ses désirs, cette attirance, ce désir profond de faire du cinéma, et que les années ne me transforment pas, cette personne que j'avais tendance à critiquer. Donc c'est une forme, pour moi, c'est crier à travers ce film pour exorciser la pire version de moi-même. Pour me reconnecter avec la poésie la plus pure.
Alors, il y a une image de cette connexion de la poésie avec l'argent. Ce sont les billets de banque en Colombie. Et même là, il y a une bourse des valeurs. Tous les poètes ne valent pas la même chose. Le poète un peu maudit, suicidé à 30 ans, José Asunción Silva, il vaut 5000 pesos. Alors que Gabriel García Márquez, lui, il en vaut 10 fois plus, 50 000.
Bueno, eso fue uno de los bellos accidentes de
Alors
la película.
Ça a été un des très jolis accidents de ce film.
Quand
José Asunción Silva arrive dans le film, le hasard fait que son billet est le billet de 5 000 en Colombie. Gabriel García Márquez, qui est l'image la plus grande, le personnage plus grand de l'art et de la littérature colombienne, correspond au billet de 50 000. Donc c'est un accident qui est assez joli. Que ces deux personnages soient l'effigie de ces deux billets en Colombie. Donc c'est arrivé de manière très naturelle, finalement. C'était une coïncidence. Une coïncidence dont je dirais profit indéniablement dans ce film. Et j'adore García Márquez. Beaucoup de personnes supposent que je critique des artistes spécifiques, mais c'est surtout un jeu, le jeu de la satire. La façon dont García Márquez, qui représente l'artiste reconnu, et José Asunción, qui représenterait plus l'échec ou le poète moyen, alors que c'est un très grand poète, le plus grand en Colombie. C'est cet hommage à l'artiste qui m'intéresse. Pas nécessairement celui qui triomphe, mais celui qui est plus moyen et qui est dans la lutte et qui reste parfois dans les rues, dans l'oubli.
Véalo, le parece poco importante.
La marca aparece de 50.
Sobrevalorado.
Te hace con una cervecita.
La misma vida de José Asunción fue un verdadero poema. 30 años tenía cuando se pegó el tiro en el corazón, ¡pum! Abrumado por las deudas y devastado por la muerte de su adorada y jovencísima hermana Elvira. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas.
Si on voit ces billets de banque, c'est qu'ils ont beaucoup d'importance dans votre film. Vous montrez comment tous les rapports sociaux, que ce soit à l'extérieur de la maison, mais même dans la famille, sont régis en permanence par des questions d'argent.
En réalité, c'est simplement une représentation du pouvoir. Le pouvoir se matérialise dans l'argent. Et l'argent, d'une certaine façon, est cette forme de poésie transversale à la vie. Pour faire de l'art, on a besoin d'argent. Pour vivre, on a besoin d'argent. Et la figure de
Jurlardi
et son désir et aussi mettre de côté cette ambition et cette nécessité de transcender et cette question que l'on voit à travers la question pécuniaire. La vie de Jurlardi se conceptualise comme pauvre. Et c'est un mot très fort. Ce qui m'intéressait, c'était aussi l'idée que tout ça ne l'intéresse pas à elle. Il ne s'agit pas tant de juste de poésie, mais juste du fait d'être bien, de se sentir bien.
Et
pour se sentir bien, on n'a pas nécessairement besoin de beaucoup d'argent. Mais surtout, chercher la base, une question qui, dans la société colombienne, n'est pas très présente, n'est pas présent. En France, il y a un état de droit et de soins.
En Colombie, muchas personas no tienen lo
droit social, ce que l'on ne retrouve pas en Colombie. La plupart des personnes en Bolivie n'ont pas accès à ce qui peut sembler basique. Et ça, c'est vraiment la base pour être bien.
Incluso para los cinéastas como yo.
Et ça concerne également les cinéastes comme moi. Être dans le cinéma, ce serait un peu comme sacrifier cette stabilité économique. Je ne suis pas particulièrement intéressé à l'idée d'avoir possédé énormément d'argent, mais surtout de pouvoir vivre de mon art avec tranquillité. Et c'est l'objectif de beaucoup d'artistes en Colombie. Mais forcément, on doit nécessairement penser d'argent. Et la question de l'argent est toujours là. Nos dilemmes, même les moins rationnels, entrent dans ce film et dans les films. Et lorsque l'on est scénariste, il faut que tout soit cohérent. Mais quand on voit le film, c'est aussi une façon, un peu comme aller voir un psy. Il y a des idées, des pensées qui nous viennent, qui peuvent nous parcourir pendant des années, et qui tout d'un coup prend la forme d'un dessin abstrait qui va devenir rationnel. Et c'est à travers le film que l'on va se comprendre soi-même. Donc oui, à travers le film, on peut voir des points d'intérêt de notre vie. Donc ça peut être la question de l'argent, de la reconnaissance, de notre propre vie, de la poésie, de l'art. Moi, je le vois un peu comme une radiographie de ma vie, une peinture de ma vie, via ce film.
Et la meilleure façon d'avoir de l'argent, Simone Messasotto, c'est de donner au public et aux financeurs ce qu'ils attendent de vous. On le voit dans ce film où on va demander à cette jeune femme, Jurlardi, parce qu'elle vient d'un quartier pauvre, de parler de son quartier, de la misère, des difficultés, plutôt que d'un arbre, que de la lumière. Vous-même, comme cinéaste colombien, vous avez été confronté à ces attentes que le marché peut avoir de la part d'un cinéaste colombien ?
Totalement.
Oui, absolument.
C'est un peu comme ce grito que...
Et c'est là qu'on y voit le cri que je voulais mettre. Je vois que via le système de cinéma, on retrouve tout un circuit. Ça va en salle, ça arrive. Voilà, mais on parle d'un film. Après, je sais que quand beaucoup de personnes vont le voir, ils vont le relier au marché du film. Tout est relié en Colombie.
sont muy difficiles de financiar.
Les films sont particulièrement difficiles à financer.
Y el mismo entorno del cine
et crea l'entourage, le milieu du cinéma crée presque des formes préétablies
de ciertas regiones
des qui que vont atteindre à certaines régions du monde. Chacune va avoir des attentes spécifiques. En Colombie, on sait quel film va être plus facile à financer ou non. Donc on peut choisir de suivre ce chemin, ce parcours, ou pas. Mais ne pas adopter ce chemin implique des difficultés majeures pour financer ces films. Et pour nous, ça a été vraiment un défi financier, ce film-là. Parce qu'on pouvait nous demander, mais où est la Colombie dans ce film ? De quoi vous nous parlez ? Alors maintenant que le film existe et qu'on peut le voir, là oui, on peut le chercher, mais pendant les 3 ans de projet de financement, ils n'avaient pas l'impression que ce film représentait la Colombie. Les éléments qui, dans le cinéma, donnent à voir la Colombie et les formes que l'on voit qui traitent de la Colombie ne sont pas évidentes. Les formes esthétiques que j'ai choisies, je voulais qu'elles rompent avec toutes les idées préconçues du cinéma colombien. Donc j'ai tenté de rompre avec le formalisme que je pouvais émettre dans mes films précédents. Toute l'atmosphère habituelle, plutôt lente. Là, je voulais quelque chose de rapide, de dynamique. Je voulais aussi que le scénario soit formel, classique. D'après moi, dans notre cinéma, on a l'impression que le classique est plus résilient et on cherche davantage l'abstrait. Comme les frères Safdie, ou les comédies romantiques hollywoodiennes sont généralement plus résilientes en Colombie que des films abstraits ou longs.
En Colombie,
le cinéma n'est pas fait pour le public colombien, de manière générale. Il est destiné plutôt à des audiences étrangères. Et j'ai aussi participé à cette forme, à différents aspects. Mais quand je vous parle d'un cri, c'est surtout un moment de pause pour dire qu'il y a d'autres univers, d'autres types de narration, et qu'il y a plein de formes de narration pour évoquer les différents personnages et univers colombiens.
Mais c'est une question ancienne dans le cinéma colombien. On avait consacré une émission notamment au groupe de Cali, ces cinéastes des années 70 qui dénonçaient la forme majoritaire du cinéma colombien de l'époque, qui était la pornographie de la misère, la pornomiseria. Et dans votre film, il y a aussi cette réflexion, Simone Mesa Soto, de s'emparer d'une fille qui vient d'un monde pauvre, et puis d'en faire une sorte d'œuvre d'art, et puis après on l'abandonnera à son destin. Quelle question vous vous êtes posée précisément sur comment filmer cette jeune fille sans la vampiriser et en lui donnant toute sa présence?
Obviamente, agarrando pueblo, que es esta película de la que mencionas de Luis Ospina.
Bien sûr, quand vous parlez de ce film de Mayolo et Ospina,
de cómo ha evolucionado el mismo dilema.
C'est toute l'évolution de ce même dilemme. Au sein de la société et la façon dont on parle de la société, la façon dont on la donne à voir. En Colombie, il y a ce dilemme d'inégalité très important, un écart impressionnant entre la grande richesse et la grande pauvreté.
Et
l'artiste, généralement, est plutôt associé à la classe moyenne, voire haute. Et lorsque l'on parle de la réalité, on doit y montrer toute la largeur du spectre.
En Colombie, le cinéma tiende à lo social.
Le cinéma est relié au social.
Incluso para mí, cuando retrataba a Yurlady y su familia.
Quand on parle de la famille de Yurlady,
pensaban dos cosas. Primero,
généralement, ce qui est pensé, c'est
una dignidad, de cierta manera.
Il fallait d'abord leur apporter
pero no
de
moralismo.
La dignité, mais pas du moralisme.
Porque igual es como al principio en el guion yo pensaba
au début, au moment du scénario, il faut pas en rire.
Abordar todos los personajes.
Donc c'était aussi une question d'aborder tous les personnages via la comédie comme un acte de résilience à l'encontre du moralisme, qui finalement est un moralisme du premier monde, de parler des classes sociales basses avec cette forme de politiquement correct, de respect. Non, ce sont des êtres humains, comme nous tous. Donc dans le cas de Yolardis, ce qui était important, c'était de ne pas jouer ce jeu-là, de ne pas jouer le jeu de la société moderne. On peut trouver tout à fait normal qu'elle ne cherche pas une reconnaissance, un être qui viendrait la sauver. On peut juste vouloir être bien et s'en contenter. Et en même temps, ces personnages reflètent un dilemme que l'on a vraiment dans le cinéma colombien. C'est le rapport entre le réalisateur ou la réalisatrice envers les acteurs non professionnels. Généralement, le cinéma colombien travaille énormément avec les non professionnels. Et c'est aussi mon cas. C'est un rapport, une relation qui demande une analyse profonde sur la façon d'aborder le travail avec les acteurs non professionnels pour les transformer, les adapter à ton œuvre et après les lâcher pour qu'ils repartent à leur vie réelle. Et là, j'avais un problème éthico-moral avec ce rapport-là. Et je m'inclus dans cette approche. Je ne veux pas tant parler des autres auteurs, je m'inclus dedans. On fait tous partie de ce jeu de faire du cinéma. Comment le faire, les implications éthico-morales de faire du cinéma dans la société colombienne, quels risques l'on prend, comment on établit ce lien avec comment se donner à voir, l'autorialité. À travers la comédie nous permet de donner quelque chose, une forme de mal-être à travers ce jeu, pour parler de tout ça, comme on parle de Luis Ospina ou de Mayol, c'est dans ce grand court-métrage qui vraiment maintient tout son intérêt. C'est pas nécessairement une référence pour moi. La référence pour moi, c'est la vie. Et c'est ça, mon métier. Les questions, les dilemmes restent toujours présents, même après 50 ans. Ces questions-là sont toujours présentes.
Merci beaucoup, Simone Mesa Soto.
Merci.
La noche. La noche y tú,
la noche y tú,
vive la luna enamorada, y al contemplarle su mirada me hace revelación que me estasía, raro esplendor de fantasía que vive en ti.
Merci à Tatiana Tabourneau d'avoir traduit les propos de Simone Mesa Soto. Un poète est également en salle depuis ce mercredi. Et il n'est pas tout seul, car côté poète, il y a aussi celui-ci.
Thank you.
Les fans du très prolifique cinéaste coréen Hong Sang-soo auront reconnu ici une de ses petites musiques qui viennent clore ces toujours précieuses petites pépites cinématographiques. Compositeur, mais évidemment producteur, scénariste, directeur de la photographie, caméraman, monteur et réalisateur, Hong Sang-soo est encore une fois à tous les postes, sauf le son, pour ce nouveau film « Ce que cette nature te dit », son 33e long métrage avec un personnage étrangement proche de celui de Simone Messasoto, avec 30 ans de moins. C'est un jeune poète, donc lui aussi rejeton d'une riche famille dont il refuse l'aide financière pour vivre dans la plus grande frugalité et l'émerveillement des beautés de la nature. Un concours de circonstances lui fait passer un jour et une nuit dans la famille bourgeoise de sa fiancée, très curieuse de le rencontrer après 3 ans où il a manifestement tout fait pour les éviter, renouant parfois avec le flou qu'il avait expérimenté il y a 2 ans dans In Water. Il faut dire que le personnage principal est myope comme pas deux. Hong Sang-soo excelle encore une fois avec sa petite caméra à montrer l'air de rien comment la durée d'une situation, surtout quand elle se déroule pendant un repas arrosé, peut faire dérailler les codes de la sociabilité convenue et faire dire et apparaître des vérités qu'on préférerait cacher. Avec cette question qui apparemment travaille le cinéaste qui a fait vœu de pauvreté pour gagner en liberté, quelle différence y a-t-il entre la modestie et la médiocrité? Ou encore, est-ce que c'est le talent qui fait le poète ou son attitude au monde? Le film ne tranche pas et c'est tant mieux, car la réponse est sans doute dans la beauté humble des images du cinéaste. Côté réédition en salle, vous pourrez prolonger les plaisirs du frisson post-Halloween en fréquentant L'Enfant du Diable de Peter Medak, comme on l'appelait en 1980 pour sa sortie française, The Changeling, comme il s'appelle aujourd'hui pour sa réédition, un grand film de maison hantée qu'adore notamment un Martin Scorsese. Vous pouvez aussi redécouvrir les premiers pas flamboyants d'un cinéaste qui s'est sans doute un peu perdu depuis ses débuts, c'est Alejandro González Iñárritu, et son premier film Amores Perros, Amour Chienne, ressort également en copie restaurée 25 ans après avoir enthousiasmé la semaine de la critique à Cannes. 3 histoires liées par un accident de voiture dans un Mexico chaotique et sous tension, une énergie dingue, le premier rôle au cinéma de Gael García Bernal, révélé par le film, et encore et surtout peut-être une bande musicale affolante qu'on ne se lasse pas de réécouter.
Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz.
Ajá.
Y cambiar el gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesas. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Côté rétrospective, il y a la Cinémathèque française à partir de mercredi, un hommage à Laurent Cantet, précocement disparu l'an dernier à l'âge de 63 ans. Ce seront ses complices Gilles Marchand et Robin Campillo qui étaient venus la saison dernière nous parler de lui dans Plan Large, qui présenteront ses films à la place du lauréat de la Palme d'Or pour Entre les Murs. Il y aura aussi des amis, des complices, des admirateurs et admiratrices comme Annie Ernaux qui présentera Ressources humaines. Ce sera samedi prochain à 14h30. Parallèlement, la Cinémathèque française toujours propose encore depuis mercredi dernier une intégrale Sacha Guitry, 32 ans après celle qui avait fait redécouvrir le cinéaste au Palais de Chaillot. Prélude à la ressortie en salle mercredi prochain de 7 de ses films en costume, dont Charlotte Garçon nous parlera en chronique la semaine prochaine dans Plan Large. Côté festival, on signale enfin Ciné Banlieue qui, à partir du 5 novembre en Seine-Saint-Denis et à Paris, fête ses 20 ans de mise en avant de jeunes talents issus des quartiers populaires et en manque de visibilité. Le festival d'Arras du 7 au 16 novembre propose lui une surprenante rétrospective
Empire, Amour et Tragédie, consacré à la monarchie austro-hongroise au cinéma, du Meyerling d'Anatole Litvak en 1936 au Corsage de Marie Kreutzer en 2022, en passant par les Senso et Ludwig de Luchino Visconti. Et enfin, c'est encore à Sarlat que le premier Festival National des Lycéens se tiendra du 4 au 8 novembre pour mettre en avant l'indispensable importance de l'éducation à l'image dans la formation des futurs spectateurs et citoyens. D'autant qu'en regardant des films, on apprend beaucoup de choses. On apprend à danser, par exemple.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, anche indietro, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Hai visto com'è semplice? Mi dia la mano.
Ma no, perché? Scusate.
Facile, ci sono i numeri, coraggio. Col sinistro. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ma scusate.
2, 3. Vedrà, 2, 3,
ma che stiamo facendo?
La rumba.
Ah, la rumba.
Belle bimbe innamorate.
Ma no, ma vi pare. Mia figlia è quella grande, lei sì che sa ballare. Ma io alla mia età.
Profumo d'amore.
Un mio sognato.
Mi sono ispirate le calze, messe nuove nuove stamattina.
Ma lei m'ha abbandonato.
Un per tre.
Triste perché.
Su, proviamo, via. Su, che facile. Con il sinistro, bimbe innamorate, gli aranci confrate, hanno un magico sapore.
E voi ci andate spesso a ballare?
Mai!
E allora perché vi state imparando la rumba?
Così. Questo è meno ballabile.
E adesso scappo. Tengo certa roba sul fuoco. Grazie, tanto piacere di avervi conosciuto.
Mi chiamo Gabriele.
Ah già, non ci siamo neanche presentati. Piacere, Antonietta Di Bene.
È un bel nome.
C'est en 1977 que Marcello Mastroianni enseignait à Sofia Loren ses quelques pas de rumba, mais c'est une journée particulière de 1938 que se déroule l'action, le 6 mai pour être précis, où la Rome fasciste célébrait dans un grand défilé Via dei Fiori Imperiali la visite officielle d'Hitler à Mussolini, comme l'atteste ce chant nationaliste qui vient recouvrir la rencontre dansée de ces deux solitudes, celle dans un immeuble caserne d'une ménagère, mère de famille nombreuse, et d'un journaliste écarté de la radio pour son homosexualité. Si j'évoque ces deux époques et ces deux lieux, c'est que Ettore Scola met précisément en scène le fascisme des rues et celui des maisons, celui des années 30 et celui de son époque, et peut-être d'aujourd'hui, Sophie-Catherine Gallet.
Oui, alors en tout cas, à Rome, ce jour-là, c'est en effet le grand jour. Nous sommes à l'orée de la Seconde Guerre mondiale et le fascisme est encensé en Italie à tel point que tout Rome donc, semble se rendre au défilé pour assister à cette journée historique. Tous, sauf ceux qui ne peuvent y assister à regret, comme Antonietta, interprétée par Sofia Loren, la ménagère et mère de 6 enfants qui doit rester chez elle pour s'occuper du foyer familial, tandis que sa famille, mari compris, part joyeusement saluer le Duce et le Führer. Ou encore comme Gabriele, interprétée donc par Marcello Mastroianni, un voisin d'Antonietta vivant seul qui, lui, n'a vraiment aucune envie d'aller célébrer ce nouveau monde en marche, mais aussi comme la concierge de leur immeuble qui, elle, veille au grain. Alors il faut sans doute d'emblée replacer historiquement ce film, sorti donc en 77, c'est en pleine décennie de l'âge d'or du cinéma politique italien, mais il conserve certains des préceptes du néo-réalisme par une attention très importante portée sur la réalité des lieux et sur la réalité des personnages. Alors, le film se concentre donc sur Antonietta et Gabriele, dont la relation construit l'intégralité du film, tandis que le propos politique est amené de diverses manières, parfois écrasant quand le film s'ouvre sur des images d'archives de la liesse populaire qui accueille Hitler, parfois en sous-texte, envahissant alors le hors-champ grâce à la concierge, qui plante sa radio diffusant les discours en continu devant sa loge, dans la cour, et dont le son se répercute en écho dans tout l'immeuble. La journée de ces personnages se concentre uniquement autour de ce lieu, leur immeuble, dont le centre de gravité est la radio et la diffusion du discours, ajoutant à l'unité de temps une unité de lieu, un immeuble construit en 1934 à l'architecture fasciste, imposant, construit en cercle et composé de coursives où chacun peut constamment voir, mais aussi être vu. Unité de temps, unité de lieu, mais également unité d'action, puisque donc tout l'enjeu sera la rencontre entre la femme au foyer convaincue par conformisme par le fascisme et l'homme vivant seul, exclu par le fascisme, puisqu'on le comprend vite, donc il est homosexuel et attend l'internement qui a déjà visé certains de ses amis. Cette triple unité construit ici, notamment donc grâce à l'utilisation de cette architecture fasciste, une sensation de piège qui se referme à mesure que le film avance. La sensation, elle est aussi construite par le son, d'écrasant, comme je disais donc au début avec ces images d'archives. Le son du discours devient omniprésent en hors-champ pendant la quasi-intégralité du film. Presque aucun des moments de cette journée n'est vécu sans, en arrière-plan sonore, les bruits de bottes du défilé, les voix des dirigeants ou encore les chants martiaux, renforçant vraiment donc cette sensation d'enfermement dans la triple unité. Mais bon, il y a quand même une exception, et c'est quand Gabriele et Antonietta viennent de partager un moment intime, ils viennent d'avoir une relation sexuelle malgré leur opposition, en apparence surtout, et y compris sur l'orientation sexuelle. Mais dans cette apparente impossibilité à se rejoindre, à se comprendre, se forme soudain une brèche nourrie donc par la solitude immense de ces deux êtres. Et grâce à cette rencontre à la fois charnelle et émotionnelle, le fascisme s'éloigne enfin, le silence se fait pendant quelques minutes, à l'exception du dialogue. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le spectateur comprend combien il avait été matraqué précédemment par le bruit incessant. Bruit des familles partant voir le défilé, silence de quelques instants, presque aussitôt interrompu par le bruit des bottes. Et combien le réalisateur a su mettre en scène le lavage de cerveau insidieux sur lequel s'appuie le fascisme, inondant de sa logorée incessante les murs d'une ville, les médias et in fine les esprits. Et c'est là que se joue vraiment le film, au fond, dans cette mise en scène vraiment brillante du fascisme ordinaire, construit aussi par le rôle de la concierge, qui reste donc essentiellement hors champ, représente ainsi l'œil qui observe mais n'est pas vu, et qui représente surtout la délation érigée en loyauté. Cette mise en scène assez époustouflante vient alors expliquer aussi un autre élément vraiment très déroutant du film, qui est la palette de colorimétrie. On a au début presque la sensation d'un film qui en fait n'aurait pas été étalonné. Les couleurs sont atténuées au maximum, donnant vraiment une étonnante luminosité au film entre le gris et le jaune passé, un univers dans lequel en fait aucune couleur ne semble vraiment pouvoir exister. Mais pour autant, Ettore Scola n'a pas choisi non plus de filmer dans un noir et blanc franc. Cette colorimétrie en demi-teinte vient alors inscrire une impression visuelle du fascisme, loin d'une flamboyante réussite évidemment, mais aussi très loin d'un noir et blanc sans nuance. Au contraire, on est dans un univers dont toutes les couleurs, dont la vie au fond aurait été peu à peu aspirée, mais un univers où les couleurs subsistent quand même, atténuées mais vivantes, n'attendant que d'être réveillées. Une variation en somme qui est peut-être en réponse au thème musical, qui là aussi est une variation sur piano et en mineur d'un hymne martial. Par cette variation et cet univers presque sans couleur, peut-être peut-on voir aussi un miroir de la condition d'Antonietta. Elle semble à la fin de cette journée retourner à son quotidien et choisir le fascisme, mais à l'instar de ces couleurs étouffées, de cet hymne remanié, peut-être quelque chose d'autre a réellement été allumé en elle comme une impression en négatif, alors s'impose à l'inconscient du spectateur qui sort secoué de ce récit. Cette autre musique bien connue qui, précisons-le, n'est pas dans le film, mais qui pourrait peut-être bien se raconter comme un prolongement du récit.
Et tous mes débits s'épelliraient. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et tous mes débits s'épelliraient sotto l'ombra di un bel fiore. Et tutti quelli che passeranno oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, 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 e tutti quelli
diranno che bel fior. E tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior.
Merci Sophie Catherine Gallet. Une journée particulière des Torrescola, c'est à voir sur grand écran et en copie restaurée. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission qu'on dédie au grand cinéaste anglais Peter Watkins, disparu hier à l'âge de 90 ans. À la prise de son, Noé Chaban et Benjamin Troncin. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et Juliette Marcaillou et réalisée par Anne-Laure Chanel.